C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre set.
On y va ?
Allez,
on y va.
Guillaume Perréin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mon premier invité à Racontez-nous votre set pour un entretien convivial, pour notre plaisir d'abord à tous les deux, et puis surtout pour le plaisir des auditeurs de Radio Divergence. Guillaume Perréin, vous êtes né à Sète.
Exactement, oui.
Y exercer un métier médical.
Oui.
Et vous avez, j'ai cru comprendre, un fort engagement associatif.
Aussi, oui.
Qu'est-ce qui manque à cette description ?
Ah ben, qu'est-ce qui manque à cette description ? J'ai deux enfants. J'ai deux filles.
Deux filles.
Qui ont 17 et 19 ans, oui.
Ah.
Et pour le reste, oui, j'ai un engagement associatif depuis très longtemps.
Ouais.
Ça me vient de mes parents. Et en effet, je suis podologue depuis 22 ans, voilà, installé à Sète depuis.
Podologue, c'est la personne qui s'occupe des pieds, c'est
des
ça ?
Des pieds, des semelles orthopédiques.
Voilà, des semelles
des
orthopédiques,
ouais.
Des ongles incarnés.
Aussi, oui.
Aïe, 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 c'est la catastrophe, aussi. Les ongles incarnés.
Pour vous ?
Et alors, parce que ça fait très mal.
Mais pas pour nous.
Oui. Est-ce que des fois, ça vous fait un peu de la jouissance de... Non, vous faites pas mal à vos patients quand même.
Je fais pas exprès. Je fais mal, mais je le fais sans pitié, mais jamais avec plaisir.
Bon, alors dites-moi, je vais déjà vous poser une première question. Vous êtes un papa de deux filles.
Yes.
C'est la merveille.
Ah, ça. Vous en savez quelque chose, les papas qui ont des filles.
J'ai quatre filles.
Les papas qui ont des filles, c'est pas rien.
C'est extraordinaire.
Ouais.
Oui, j'aurais bien aimé avoir un garçon pour lui apprendre qu'un homme n'est pas forcément ce qu'on croit que c'est.
Oui.
Mais je suis tellement heureux d'avoir des gamines qui sont maintenant des femmes. Mmh. Ça fait quel effet quand on les voit devenir femmes ?
Ah ben ça fait tout drôle, mais bon, c'est l'évolution normale.
Ouais.
Donc là, on a les filles, et pour une, le petit copain,
et voilà.
Et
ben voilà.
Et j'ai toute une ribambelle de filles adoptives, des copines.
Et ben voilà, je vis la même chose que vous, parce que c'est merveilleux d'être... moi, j'ai un âge plus avancé que vous, puisque j'ai eu des enfants assez tard dans ma vie. Et être entouré de cette jeunesse par mes filles est quelque chose que je trouve absolument merveilleux.
C'est très agréable.
Ouais. Voilà. Alors dites-moi, Guillaume, vous avez fait vos études à Sète ?
J'ai fait jusqu'au baccalauréat à Sète, et puis après je suis venu sur Montpellier, et après je suis rentré en école de podologie à Nantes. J'ai passé 3 ans à Nantes.
À Nantes ? Et vous aimiez Nantes ?
Ah oui, oui. Nantes, c'est une ville magnifique, et bon, pleine de vie, étudiante. Et puis la région là-bas là, est très agréable aussi.
Oui, la région de Nantes.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Mais ce n'est pas le même climat qu'ici.
Ah, ça, ce n'est pas le climat.
Oui. Bon, alors, vous avez choisi votre métier comment ?
Ah bon, alors, comment ?
Pourquoi ?
Être podologue, c'est... moi, ça m'est arrivé par défaut. C'est-à-dire que je suis rentré en première année de médecine à Montpellier et j'ai planté le concours, et après j'ai passé les concours paramédicaux et j'ai pris le premier que j'ai eu. Et après je suis tombé amoureux de ça. Voilà. Après je suis tombé amoureux de ce métier parce que c'est un métier très sympa, très gratifiant. On peut soulager le patient tout de suite. Je le dis souvent à mes patients, on rentre malade chez le médecin, on ressort malade avec une ordonnance. On rentre avec un ongle incarné chez le podologue, on ressort, on n'a plus mal. Voilà.
Oui, ou alors on rentre avec une épine cancanéenne et on met une semelle
et on sort et on
marche dessus et on peut marcher.
Exactement.
Voilà,
c'est ça. C'est ça.
D'accord. C'est quand même étrange parce que s'occuper des pieds, ça pourrait rebuter.
Ben, tous les métiers de santé peuvent rebuter.
Oui,
s'occuper des dents, si.
Ah oui,
voilà. Tous les métiers de santé, mais après c'est notre travail.
Ouais.
Comme tous les boulots.
Oui.
J'imagine que les cuisiniers dans les restaurants, au bout d'un moment, quand il faut se faire à manger à la maison...
Oui, ah, c'est sûr. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Oui, oui,
voilà.
C'est... Et alors, vos filles, puisque vous m'avez parlé de vos enfants, elles ont vécu leur jeunesse à Sète.
Oui.
Et elles sont parties ?
Ah oui, oui, oui.
Pour les mêmes raisons que
alors,
vous ?
Alors, la grande est partie pour les mêmes raisons que moi, et spécifiquement pour les mêmes raisons, puisqu'elle a fait sa première année de médecine à Montpellier l'année dernière.
D'accord. Et elle, elle n'abandonne pas.
Elle, ben, moi, je n'ai pas abandonné. J'ai fait mes 2 ans. Elle a pas eu sa première année. Donc, elle est en licence de biologie accès santé pour revenir en médecine après.
Oui, je vois très bien ce
à Perpignan.
Que c'est.
Ouais. Et la petite, Marine, est partie il y a longtemps. Elle est partie parce qu'elle est nageuse de natation artistique maintenant. Ce n'est plus la natation synchronisée. Elle est partie, elle avait 13 ans et demi au Pôle France d'Aix-en-Provence. Et là, cette année, elle a intégré la sélection. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'équipe de France senior, le groupe olympique à l'INSEP. Elle a fait sa rentrée début septembre à Paris.
D'accord.
Donc elle, Marine, elle est en terminale.
D'accord.
Et elle est sportive de haut niveau. Voilà.
Voilà. Et alors, vous n'êtes pas sportive de haut niveau ?
Mais pas du tout.
Mais vous vous occupez des sportifs de haut niveau ?
Eh ben, comme beaucoup de parents de sportifs, ben je suis rentré au comité directeur du club il y a déjà presque 10 ans.
Le club, c'est un club ?
Un club de natation, ouais. Natation artistique, water polo,
ouais.
L'apprentissage de la nage. Enfin, on fait tout ce qui touche à l'eau.
D'accord.
Et j'en suis le président depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans.
Et ça, pourquoi ?
Eh ben, parce que le club, à l'époque où Marine était petite, le club avait été coulé et il y avait un pôle France de natation artistique à Sète. Et donc, on a perdu le pôle et j'y suis rentré pour aider à redresser le club et essayer de réobtenir un pôle. Bon, j'ai vite compris que c'était de la géopolitique et que le pôle de Sète était perdu, il était à Colomiers. Mais je me suis pris au jeu. Étant dans l'associatif depuis très longtemps et ayant été bercé par mes parents dans l'associatif aussi, je me suis pris au jeu et j'en suis devenu le président 4 ans plus tard. Et voilà, on s'occupe de tout ce petit monde.
D'accord. Mais pourquoi la natation ?
Eh bien, justement, parce que Marine y était. Et que,
ah oui,
et que comme, fille y était, comme je voulais, en tant que... En bon papa, je voulais qu'elle reste à 7. J'ai essayé de récupérer, j'ai essayé de travailler pour récupérer un pôle. Bon, ben, j'ai pas réussi.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Elle est partie à Aix.
Voilà, elle est partie à Aix.
Puis Paris.
D'accord. Voilà. Bon, alors revenons un peu sur 7. Il paraît, je sais que c'est Paul Valéry qui a dit ça. Je vais ouvrir les lieux, les. Comment dirais-je, les bêtises que tout le monde raconte. Je n'ai pas compris pourquoi il avait dit ça. Qu'est-ce que Sète a de singulier ?
Qu'est-ce que Sète a de singulier ?
Puisque Valéry a dit que c'était l'île singulière.
Sa beauté, déjà.
Ah bon, vous trouvez la ville belle ?
Oh, je trouve que la ville, quand on y arrive, oui, elle est belle.
Mais
ces canaux entre la mer et l'étang, le Mont-Saint-Clair, c'est beau.
Mais la ville en elle-même, est-ce que vous
connaissez... Notre théâtre, le théâtre de la mer.
Est-ce que vous connaissez Arles ?
Oui.
Ça, c'est une belle ville.
Oui.
C'est une petite ville.
Mais Arles n'avait pas Paul Valéry.
Oui, surtout.
Pour dire qu'elle était singulière.
Voilà, elle n'avait pas de canot, mais elle a le Rhône.
Et oui.
Voilà, donc vous trouvez la ville belle.
Ah oui.
Parce que l'architecture est pas, c'est pas magnifique.
Mais c'est pas une histoire d'architecture. Je pense que le fait d'avoir toute cette eau, la mer, quand j'emmenais mes gamines à l'école, je leur disais souvent, quand on habite ici, on oublie qu'elle est là. Il y a des gens qui économisent toute l'année pour venir à la mer.
Ouais.
Quand on habite sur place, on oublie qu'elle est là. On oublie à quel point c'est beau de la voir là, de passer devant tous les jours.
Ouais.
Et je pense que ça joue énormément.
Ouais.
Je pense que ça joue énormément. Les temps, voilà. Et puis quand il fait beau dans ces villes-là, elles sont baignées de lumière.
Oui. Mais c'est surtout, enfin, l'une de ses caractéristiques, c'est pour ça que peut-être on a dit une île, hein, c'est qu'elle est coincée entre la mer et l'étang.
Ah, exactement.
Et ça, c'est merveilleux.
Exactement.
C'est merveilleux avec les canaux qui passent. En plus, il y a une chose qui moi m'a surpris en arrivant ici, c'est une des rares villes où on voit des gros bateaux dans la ville. Mm-hmm. C'est quand même étrange.
Ça, c'est singulier.
C'est ça, absolument
ça,
singulier.
Ça, pour le coup, c'est singulier. Voilà. Alors, je ne veux pas m'avancer parce que je ne connais pas l'aspect technique, mais je crois que depuis longtemps, des gens, des influences politiques essaient de sortir les chalutiers, le port de la ville.
Ce serait dommage.
Et je pense que les Sétois ne veulent pas.
Ouais,
voilà, cette criée. Moi, la criée, par exemple, mon grand-père était pêcheur en Algérie et quand ils sont arrivés en France, il est rentré à... Ça ne s'appelait pas Ifremer à l'époque, mais bon, à l'équivalent d'Ifremer. Mon grand-père était pêcheur toute mon enfance. Il nous emmenait à la criée et on y passait nos après-midi.
Ben oui.
On y passait nos après-midi. Alors, ouais, on vendait des congres aux touristes. mon grand-père raccommodait des filets. Il pêchait une cousine de la dorade qui s'appelle l'oblade que les marieurs lui rachetaient. Et avec ça, il nous achetait une glace, il nous achetait...
Voilà. D'accord.
Donc, je trouve ça, c'est très singulier, cette criée qui reste en plein centre.
Pour vous, alors, si je comprends bien, c'est essentiellement la relation à la mer.
Oui. Oui. La relation à la mer, c'est très singulier, encore une fois.
Ouais,
voilà.
Ouais, c'est vrai, voilà. C'est un peu vrai. Mais c'est un grand port, quand même.
Oui, bien sûr.
C'est pas
bien sûr. Mais c'est pas ça le côté intéressant pour les gens qui vivent à Sète. Par exemple, il y a une quinzaine de jours, je suis allé faire un soin à un patient à la Pointe Courte.
Oui. La fameuse Pointe Courte.
Voilà, la fameuse Pointe Courte. Quand vous arrivez là-bas, je me suis garé, je suis sorti de ma bagnole, j'étais à 500 mètres de mon cabinet qui est plein centre-ville, et c'est un air différent.
Oui, c'est tout de suite
un air différent.
Oui, je suis assez d'accord. D'ailleurs, la Pointe Courte, indépendamment de la réputation qu'elle a eue grâce à un cinéaste bien connu, donc ce n'est pas le film le plus extraordinaire de mon point de vue, j'y ai trouvé, pas du côté canal, mais de l'autre côté, du côté port, il y a des vieux débarcadères, une espèce d'entremêlement avec des chats faméliques qui traînent, et des endroits même où on peut grignoter, je dirais rien de plus, que je trouve absolument magnifique. Bon, bah écoutez, vous êtes mon premier invité, alors vous êtes le premier qui va faire le test. Je vais faire un test que je proposerai à tout le monde. Donc, et je vais vous demander d'être rapide, si c'est possible, d'accord ?
Allez.
Si Sète était un arbre.
Si Sète était un arbre. Un olivier, allez.
Si Sète était un oiseau.
Alors là, je vais me faire attaquer par les Sétois qui vont écouter parce que j'ai jamais fait la différence entre les gabians, mais on va dire un gabian.
Un gabian, oui, c'est marseillais le gabian, d'accord. Et si Sète était une fleur ?
Le tournesol.
Le tournesol. Et si Sète était une danse ?
Une danse ? Les danses... je ne retrouve pas le nom. La danse espagnole, le flamenco.
Un flamenco, d'accord. Si Sète était un plat, mais ne me répondez pas une tielle.
Non, je ne vais pas répondre une tielle. On va dire... je ne vais pas dire un macaronade non plus. On va dire une paella.
Bon, et si Sète était un monument ?
Si Sète était un monument, alors là... Allez, je vais taper dans mon quartier, je vais dire le théâtre Molière.
Ouais, vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Et si Sète était une musique ?
Si Sète était une musique ? Eh bien, je vais dire le rap.
L'enfant seul, je sais que c'est toi. Les bestes, on sait que c'est toi.
Yeah ! C'est encore nous. Nous. Fuccino et demi. Portion. Yeah !
J'étais venu m'asseoir, t'as de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir, t'as de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y
amis mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux.
J'étais venu m'asseoir, oui, y'a de la place pour tous. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule devant son gros couscous? Est-ce ainsi que se dessine la vie? Craindre de perdre sa place dans un cinéma vide? Unique, donc chacun son rôle. Cause du bordel, celui qui a tout l'or veut le bronze des autres. Je veux qu'on m'épaule, pas qu'on me traîne, ni être fait à bonnet, car une aide peut finir en cadeau à pardonner. Un fauteuil pour deux, c'est mieux que cinq pour dix. Je serai le premier levé, donc c'est same to me. Mes textes formulent 2000 potions à ta santé. On croise la rime avec 2000 portions.
J'étais venu m'asseoir, t'as de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir, t'as de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux.
Il fallait qu'on partage ce titre, un peu comme nos meilleurs plats. Un honneur d'avoir Oxmo, comme donner la force au petit gars. Une chaise pour deux, rassis-toi, le voyage risque d'être long. Fais comme chez toi, je te rassure, y'a tout ce qu'il faut dans le salon. J'ai commencé par passion, sans vouloir prendre l'ascenseur. Apprendre mes leçons chaque soir, un peu comme un enfant seul. Mes rimes sont mes défenseurs, mon stylo mon professeur. Si aujourd'hui on s'en sort, c'est peut-être grâce aux prédécesseurs. Demi-portion, c'est mon place, t'as vu, c'est déjà partagé. Donner, toujours donner, c'est un peu ce qu'on a envisagé, copier, toujours coller, ça bug toujours à ce qui paraît. Moi j'ai préféré durer que prendre le mauvais train sans arrêt.
J'étais venu m'asseoir, t'as de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir, t'as de la place.
Et pourquoi le rap?
Pourquoi le rap? Parce que comme je vous ai parlé du théâtre, Seth est très tourné vers la culture.
Oui.
Et on a à la fois une scène nationale, on a à la fois des festivals l'été, on a un rappeur que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, mais voilà, par exemple, je vous ferai passer un morceau de Demi-Portion, un rappeur c'est toi. Donc on a plein de choses, on a un festival de graphes, de peinture urbaine, et c'est vrai que ben le rap, on peut avoir de tout.
D'accord.
On peut avoir de tout. On peut avoir des belles mélodies, on peut avoir des beaux textes, on peut avoir de l'hyper-agressivité, parfois de l'hyper-violence, parfois des choses dites et mal dites, mais il y a de tout.
Il y a de tout. Donc ça correspond un petit peu à cette espèce de côté... j'aime pas trop l'anglais, mais je vais parler français, de mélange de population.
Oui.
À cette...
Oui.
Moi, ce qui m'a surpris dans cette ville, c'est que je pensais qu'elle était espagnole, alors qu'en fait, non, elle est italienne.
Elle est italienne.
Et pourquoi elle est italienne?
Alors là, je ne me risquerai pas à me lancer là-dedans parce que je ne connais pas assez le sujet, mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'est les gens de Cetara qui ont investi la ville.
Il paraît que les Italiens, les pêcheurs trouvaient à côté de, enfin, au large de Seth, des poissons qu'ils ne trouvaient pas ailleurs et qui étaient les mêmes poissons que ce qu'ils trouvaient en Italie.
Oui, possible. Voilà. Oui.
D'accord.
Possible.
Bon, alors écoutez, donc Seth, elle a ce côté un peu donc mélange.
Exactement.
Et c'est moi je trouve que c'est pourtant alors. C'est compliqué parce que je trouve que dans ce que je sens d'elle, c'est pas une ville prétentieuse.
Non.
Mais pourtant, elle est quand même présentée un peu comme ça.
Je sais pas si c'est Seth ou si c'est les villes du bord de mer.
Oui.
Voilà.
Oui.
Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, tout le monde disait, avec l'augmentation du prix de l'immobilier, tout le monde disait que ça allait être la suite logique de la Côte d'Azur. Et en fin de compte, c'est peut-être le village d'irréductible gaulois.
Oui.
Parce qu'elle est présentée comme ça, mais quand on y est, elle n'est pas comme ça.
Non, elle n'est pas comme ça. Ouais. Encore que, moi, je veux dire, je ne connais pas très bien Seth, mais on va parler du présent. Ce qui est en train de se construire à l'entrée est de Seth n'est quand même pas merveilleux.
Quand on a connu Seth, il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'est sûr que ça change. Après, les choix, vous savez, je le dis souvent pour mon club, il faut essayer de prendre la vision globale Alors, la vision globale, bien sûr, quand on regarde des immeubles, on se dit, bon, c'est des immeubles. Mais peut-être qu'il faudrait en parler avec, avec les politiques publiques qui mettent ça en place et leur, leur dire pourquoi.
Oui, oui, puis d'un autre côté, je suis un peu d'accord, vous n'avez pas totalement tort, c'est-à-dire quand même une ville, c'est fait de tout.
Ben oui.
Donc c'est fait de la ville haute, où on pourrait se croire presque en Sicile, avec
oui,
le linge qui sèche aux fenêtres, les maisons très proches les unes des autres, quasiment pas de soleil, et puis là, ces immeubles qu'on croirait de la région parisienne, avec des balcons qui sont à 10 mètres les uns des autres, ce qui est tout à fait étrange.
C'est ça, je pense que pour analyser l'évolution d'une ville, il faut avoir d'une ville ou d'un club ou d'une famille, il faut avoir une vision à long terme, peut-être que la vision à 50 ans.
Ouais, c'est possible.
Et celle-là.
Et est-ce qu'il y a parce que quand même il faut tout examiner. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette qui vous déplaît profondément? Je parle dans la ville.
Quelque chose qui me déplaît profondément.
Oui, je parle dans la ville.
En architecture, en...
Par exemple.
Ben, peut-être quelque chose qui est ancien, mais qui s'est voulu sûrement révolutionnaire à l'époque, la tour de l'avenue Victor Hugo.
Voilà, je sais ce que vous allez me dire. Voilà. Vous savez que la tour Victor Hugo est un sujet de controverse permanent. Entre mon épouse et moi, parce que moi, je lui avais dit, mais la vue doit être magnifique au dernier étage. Voilà. Et elle m'avait dit, Yves, jamais je n'habiterai là-dedans. Et moi, je lui avais répondu, mais enfin, quand on est dans notre appartement, on ne dort pas dehors, on s'en fout.
Oui.
Si la vue est magnifique. Mais
oui,
c'est vrai que c'est un...
Il n'y a pas besoin de monter au dernier étage. Pour y avoir travaillé au septième...
Pourquoi ça a été construit, cette tour?
Oh là, je ne sais pas du tout.
Ouais. Je me demande, c'est étrange.
Je ne sais pas du tout.
Ça fait vraiment une verrue dans la ville.
Ben oui, mais elle est là.
Ben oui, elle est là. Et en même temps, c'est vrai que le panorama doit être absolument magnifique. D'accord. Être un coin... vous avez l'air ravi d'être à Sète.
Oui.
En quoi et pourquoi? En quoi vous êtes heureux de travailler dans cette ville?
Ah ben parce que j'y suis né, parce que c'est une ville qui est agréable, parce qu'on a ce mélange, vous savez, dans notre quartier, parce que c'est presque notre quartier, vous n'êtes pas loin de mon cabinet, dans notre quartier, c'est un quartier très mélangé.
Oui.
C'est un quartier très mélangé, donc on a beaucoup de retraités qui ne sont pas du coin.
Oui.
Donc, la vie de quartier y est très agréable. Voilà. Voilà. En plus, ils sont en train de nous le refaire. Alors, en ce moment, on a des travaux, mais...
Ils ont refait la place Victor Hugo, c'est ça.
Elle est magnifique.
Voilà.
Le théâtre a été rénové.
Il est magnifique. C'est vrai que c'est un joli théâtre.
Voilà.
C'est un théâtre à l'italienne, c'est rare. Avec un lustre absolument magnifique.
J'y ai travaillé étant jeune.
Et vous avez fait quoi dedans?
Ah ben, j'étais manœuvre à 18-19 ans. J'étais manœuvre dans une entreprise d'électricité.
C'est un théâtre à l'italienne particulier, parce que théâtre à l'italienne, c'est un mode de salle, mais il y en a plusieurs types. Lui, c'est un théâtre à l'italienne particulier qui est un peu un joyau. Alors, on n'y voit pas très bien de tous les...
Ah, ça, c'est certain.
Voilà. Mais vous savez que les théâtres à l'italienne ont été construits plutôt pour que les gens des galeries regardent la beauté des femmes du parterre, plutôt que pour voir la scène.
Et
ils refont l'avenue aussi.
Oui.
Ouais, d'accord.
Ouais, les travaux viennent de reprendre. Là, ouais.
Vous la trouvez comment, cette avenue? C'est pareil, c'est très partagé, les avis que j'ai entendus là-dessus.
Ah, alors, moi, je suis installé dans ce quartier depuis 22 ans. C'est une avenue qui méritait mieux. Donc, maintenant qu'on a cette place...
Qui méritait mieux,
c'est-à-dire. C'est-à-dire que elle n'était pas... l'ancienne place, c'était un parking où il y avait beaucoup de voitures qui sont dites ventouses, qui ne bougeaient jamais, qui se détérioraient sur place. Donc, c'était... C'est un quartier qui s'était un peu dégradé. Et depuis déjà presque 10 ans, hein, on a attaqué des travaux dans... Ça a commencé par le pont de la gare, et puis les quais ont été faits, et puis petit à petit, on revient sur l'avenue. Là, il ne manque plus que l'avenue elle-même.
Oui.
Quand les trottoirs et l'avenue sera refaite, elle aura le lustre qu'elle mérite.
Parce que, si vous voulez, c'est une avenue assez belle dans la prolongation, avec une très, très belle allée de platanes de chaque côté. Mais elle est un peu tristoune. Il n'y a pas beaucoup de magasins. Il n'y a pas une animation extraordinaire.
Eh bien... l'animation, les animations reviennent beaucoup avec la nouvelle place.
Oui.
Et on voit des magasins qui réouvrent, on voit des devantures qui se remettent en place. Donc, ben voilà, une fois que tout sera refait, je pense que elle va vivre à nouveau.
Bon, c'est bien. Mm-hmm. Guillaume, je vais vous poser une question un peu plus... Enfin, pas personnelle. Non, c'est pas personnel, mais bon. La vie, c'est le travail, les activités, le quotidien, enfin, mm-hmm. je sais pas quoi, tout ça. Mais c'est pas que ça, c'est, comment dire, un projet de vie. Et en quoi vous pensez que vous réalisez ce que vous avez envie de faire de votre vie à 7? Et est-ce que 7 vous y aide?
Ah oui, 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 que 7 m'y aide, oui. Ben... Quand on est dans l'associatif, c'est vrai que ben bon moi le travail ça fonctionne bien. Après j'ai pas des prétentions ni un projet faramineux dans ma vie, c'est-à-dire que moi que mes gamines aillent bien, que mes patients soient contents, que ma famille aille bien, ça me suffit. Voilà. Donc de ce point de vue-là, tout va bien. Voilà. Après le reste c'est du bonus. Donc, ben, mon activité bénévole est à la fois très intéressante, pas gratifiant parce que c'est jamais gratifiant d'être bénévole, mais
ah bon, pourquoi?
Parce que
vous n'allez pas me dire que vous faites pas partie des gens intéressés quand même.
Pas intéressé par?
Ben, par le picaillon.
Ah non, mais c'est alors moi c'est une grosse association. C'est-à-dire que c'est une association qui a 20 salariés, qui a une équipe de water polo élite, donc c'est plus la PME que l'associatif.
D'accord.
Alors, en effet, en interne, c'est très gratifiant. Après, sur la vision qu'ont certaines personnes, ou certains parents, ou les comportements des gens, tout simplement, moi, les instances municipales et de cette agglopole méditerranée me soutiennent tout le temps, donc on travaille bien. Ça me suffit. Mais c'est vrai que ben, si on fait du bénévolat en attendant une reconnaissance ou un merci, c'est pas la peine d'en faire.
Ouais, ouais.
Voilà.
D'accord.
Donc le bénévolat, ça va très bien. Il n'empêche que ça reste le bénévolat et que ça a un côté très ingrat.
Oui, mais d'un autre côté, c'est un choix.
Ah, tout à fait.
Et quand dire bénévole, ça veut dire qu'on fait ça sans autre contrepartie.
Exactement.
Que de réaliser le choix qu'on a fait.
Exactement.
Donc ça, c'est plutôt bien.
Oui, mais bien sûr. Ouais. Donc, c'est ce que je vous dis. Donc moi, l'accomplissement est là. C'est-à-dire que dans mes activités autres que mon activité de papa, mon activité de podologue ou de fils...
Votre activité de papa, c'est quoi ça, une activité de papa?
Ah ben c'est...
Vous n'allez pas me faire rigoler, vous n'allez pas me dire que c'est un travail.
Non, ce n'est pas un travail, mais c'est une activité.
Et c'est bénévole aussi, ça.
Oui, mais c'est une réussite.
Oui, absolument. Oh, ben
voilà,
donc,
voilà.
J'espère. Pour...
Quand on réussit d'un point...
Je vais inviter vos filles.
Ah, vous pouvez. Quand on réussit d'un point de vue familial et qu'on réussit d'un point de vue professionnel... Après, moi, j'aime le bénévolat. J'ai toujours aimé ça. Voilà.
Je vais vous poser une dernière question parce qu'on arrive à la fin puis que je voudrais garder un tout petit peu de temps pour la musique de rap que vous allez... Mm-hmm. Je vais vous poser une dernière question. Ça vous arrive d'avoir des creux de mou, comme on dit?
Oui.
Vous allez où? À 7.
Je vais où?
La ville vous propose quoi pour vous remonter le moral?
Ah, mais je vais n'importe où, mais avec certaines personnes.
D'accord. C'est pas la ville, c'est les personnes.
Ah oui, ah oui, oui, oui.
Guillaume, oui. Je vous remercie.
Merci
vous
à vous.
Vous avez essuyé des plâtres avec moi de cette première émission.
Ben, c'était pas mal.
J'espère que vous avez passé un bon moment.
Un très bon
en
moment.
En tout cas, moi, je suis très heureux de vous avoir invité et j'espère que beaucoup de monde écoutera cette émission sur Radio Divergence à 7 aussi, ainsi qu'à Montpellier. Merci Guillaume.
Merci à vous.
Bonne continuation à vous et vous direz bonjour à vos filles de ma part.
Avec grand plaisir. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Cette est une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va?
Allez,
on y va.